connectez Marie-Jo Alvarez. Bonjour à tous. Nouvelle technologie, nouvelle ère, oui, et nouvelle menace aussi. Omniprésence des technologies de l'information et de la communication, hyperconnexion, nos nouveaux modes de vie font aussi de nous de nouvelles cibles potentielles et nous exposent chaque jour un peu plus. Et dans leur sillon, une nouvelle criminalité qui, comme vous le savez, ne tarde jamais à s'inviter. Vol de données, chantage, usurpation d'identité ou e-réputation entachée, le cybercrime ne manque pas de créativité. Espionnage, bien sûr, sabotage aussi, secrets industriels dérobés ou politiques influencées, tous les champs de la cité sont susceptibles de l'intéresser, pourvu qu'il y ait de quoi se sustenter. Et dans le cybermonde, les motivations sont des plus diverses, les acteurs multiples. Internaute lambda, entreprise petite ou grande, institution, à Paris, dans le Cantal ou à Vladivostok, plus de frontières, les nouveaux champs de bataille sont désormais planétaires. C'est de cybersécurité que nous parlons aujourd'hui avec notre invité, Nicolas Arpagian, enseignant à l'École nationale supérieure de police, expert en cybersécurité. Son livre, La cybersécurité, aux éditions Presse universitaire de France, dans la collection Que sais-je. Bonjour Nicolas Arpagian.
Bonjour.
Lorsqu'on dit cybersécurité, de la sécurité, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, à la fois de ces tuyaux qui irriguent nos organisations, cette informatique qui fait fonctionner votre téléphone, qui fait fonctionner l'ascenseur, qui fait fonctionner votre système de chauffage, de climatisation. Bref, toute cette informatique qui est omniprésente dans nos vies quotidiennes, personnelles et professionnelles. Et également, cette information qui est désormais convertie en zéro, en un. Notre argent est de moins en moins en monnaie fiduciaire dans une banque, mais ce sont des lignes de code et également un certain nombre d'actifs qui deviennent de plus en plus numérisés. Donc ce sont ces deux segments qui sont potentiellement affectés par la cybersécurité ou cyber-insécurité.
Donc c'est sur eux que porte la menace. Alors quelles formes peuvent prendre les cyberattaques ?
Alors les cyberattaques vont constituer alors principalement de deux types, deux grandes familles. La première, c'est celle sur les tuyaux, justement sur les équipements. Alors pour faire en sorte que ces équipements dysfonctionnent, soient perturbés, suspendus, voire mis totalement hors d'état de fonctionner, de manière à paralyser ceux qui dépendent du bon fonctionnement de ces équipements. Et également par l'information pour la capter, la voler, la détériorer, la modifier, la rendre inaccessible, voire également la supprimer. Donc on va avoir ces deux composantes qui peuvent constituer les cibles en termes de cybermenaces.
Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de l'imminence d'une cyberattaque, par exemple ?
Alors déjà, la cyberattaque, il doit y avoir évidemment une finalité, mais pas seulement. Pour expliquer, c'est que on va être dans un système où l'attaquant n'a pas forcément une connaissance de sa cible. Je m'explique. Il peut, par exemple, connaître comment rentrer dans un système. Par contre, il ignore qui va être le propriétaire de ce système. Si on devait faire une analogie, c'est comme si vous saviez voler automatiquement un modèle de voiture et que vous ayez la possibilité de retrouver ce modèle de voiture dans l'ensemble d'une ville et que automatiquement vous lanciez simultanément une attaque sur tous ces véhicules spécifiquement. Peut-être que parmi ces véhicules il y aura celui de monsieur le maire, d'un gardien de phare ou du directeur du musée. En fait, vous ne connaissez pas les propriétaires, c'est bien la nature même de l'équipement qui les a désignés comme cibles. Par contre, on va avoir par ailleurs des attaques ciblées. Là, c'est bien précisément cette entreprise, cet individu qui va être ciblé, et à ce moment-là, le pirate aura mené une investigation préalable. On parle d'ingénierie sociale pour se documenter, se renseigner sur la meilleure manière, la plus efficace, la plus discrète, de rentrer dans le système et de mener l'opération offensive qu'il souhaite conduire.
Alors j'imagine que l'objectif, une fois détectées les attaques, c'est de réagir au plus vite et d'identifier l'agresseur et d'être réactif, quoi. C'est
alors,
essentiel.
Vous avez raison. En fait, la première règle déjà, c'est de savoir ce qu'on a à protéger. Pourquoi ? Parce que prenons l'exemple d'une entreprise, d'une administration, d'une collectivité. Il faut qu'elle sache quels sont ses actifs. Ensuite, qui peut y avoir accès ? Ainsi, lorsqu'un salarié va être recruté, on va lui donner des droits d'accès de manière à ce qu'il puisse puissent travailler. La seule chose, c'est qu'il va falloir s'interroger sur est-ce que ces droits d'accès sont proportionnés à la conduite de sa mission. Est-ce qu'un stagiaire doit avoir les mêmes droits qu'un directeur financier ou que le PDG? Non, bien sûr. Par contre, vous voyez bien que ça va obliger à se documenter sur quel est le périmètre d'action de chacun. Une vraie réflexion sur le travail, parce que la facilité serait d'ouvrir l'accès à tous les systèmes, aussi bien les contrats, la comptabilité, les feuilles de paye, éventuellement la recherche et le développement, à tout le monde. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça peut constituer autant de faiblesses. Donc, on va avoir une vraie réflexion déjà sur qu'est-ce que j'ai comme actif et quelles sont les bonnes règles d'usage, qui peut les consulter, qui peut les modifier, qui peut le cas échéant les supprimer. Et ensuite, on va faire en sorte de mettre en place des outils de détection pour voir si ces règles sont bien appliquées et s'il n'y a pas des comportements qu'on qualifiera d'inhabituels et qui pourraient faire l'objet d'éléments signalant une potentielle cyberattaque.
Donc des niveaux de sécurité différents à chaque, dans chaque secteur. Est-ce qu'on peut très bien être attaqué sans jamais le savoir, peut-être?
Bah oui, si vous n'avez pas mis d'outils de détection. Un peu comme quelqu'un qui rentrerait chez vous, ne salirait rien, aurait trouvé sous le pot de fleurs à l'entrée dans votre jardin les clés que vous gardez de réserve au cas où vous avez oublié votre trousseau, ne crée pas de perturbation, il ne vole rien. Par contre, vous voyez que cette personne va ouvrir votre frigo, va connaître vos goûts, vos allergies alimentaires, elle va voir vos photos de famille, elle va commencer à regarder votre bibliothèque et donc connaîtra un certain nombre de vos centres d'intérêt. Et cette personne ressort. Elle n'a pas créé de perturbation. Par contre, elle s'est documentée sur vos centres d'intérêt. Et le jour où elle voudra vous aborder, vous envoyer un message pour vous leurrer ou pour se rapprocher de vous, bah effectivement, vous voyez qu'elle aura acquis un capital d'informations qui lui seront utiles pour être plus efficace dans ses travaux d'approche.
Alors, en cas d'attaque, est-ce que les entreprises, enfin l'individu, mais surtout les entreprises, est-ce qu'il y a une collaboration qui s'opère? Est-ce qu'il y a une solidarité qui se met en place avec d'autres entreprises, avec, je ne sais pas, des institutions?
Déjà, en termes
est-ce qu'on est seul face à l'attaque?
C'est un univers, effectivement, vous avez raison de le souligner, qui a des particularités. C'est un des rares domaines où les entreprises, même si elles sont commercialement concurrentes, sont amenées à coopérer. Prenons l'exemple d'une banque. Une banque qui aurait subi, sur un certain nombre de ses équipements informatiques, une cyberattaque, il est vraisemblable que le pirate a donc réussi à rentrer dans ce système. Par contre, il est possible, et en général c'est le cas, que cet équipement informatique soit présent dans d'autres banques. Pourquoi ? Parce que l'éditeur de ce système informatique, s'il veut gagner sa vie, il ne peut pas le vendre qu'à une seule banque, il a essayé de le commercialiser auprès d'autres établissements bancaires. Et donc c'est vrai que si la banque A, qui fait l'objet de l'attaque initiale, si elle est en mesure de décrire la nature de l'attaque qu'elle a subie et d'en informer la banque B, C, D, E, F, celles-ci, si elles n'ont pas encore fait l'objet d'attaques, sont plus à même de se prémunir. Donc c'est un domaine où en fait on permet à un certain nombre d'acteurs concurrents de partager en toute discrétion des informations de manière à hausser le niveau général de la communauté. Alors évidemment, il y a toujours un primo infecté, mais l'idée c'est que peut-être dans le cas présent c'est la banque A, peut-être que le coup d'après ce sera la banque D, C, et qu'on considère que cette circulation d'informations sera à même d'améliorer la sécurité collective. Alors, ensuite, il y a ce que la législation impose. Si vous vous faites voler ou vous perdez des données personnelles, au sens de la nomenclature établie par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vous avez là l'obligation de prévenir la CNIL, la commission, mais également de prévenir le titulaire de la donnée. Donc vous voyez, ça vous oblige dans des délais très courts, quelques heures, quelques jours, à faire diligence. Donc là encore, d'avoir mis en place des outils de détection de manière à réagir, et enfin d'avoir, alors ça c'est souhaitable, de ce qu'on appelle de la réponse à incident, un peu comme connaître l'adresse de la caserne de pompiers la plus proche. Si un jour un feu se déclare, c'est mieux si vous avez le numéro des pompiers pas très loin, de gens capables d'intervenir avec l'expertise, la disponibilité, et potentiellement un travail sur la durée. Pourquoi ? Parce que gardez à l'esprit que l'attaquant maîtrise l'agenda, c'est lui qui décide du début de l'attaque, du mode opératoire de l'attaque et de la nature de sa cible. Donc il peut tout à fait décider à un moment de suspendre son attaque, de la reprendre quelques heures, quelques jours plus tard. Donc ça demande des ressources de réponse à incident, de gens capables de travailler sur la durée, qui ne s'épuisent pas, puisque souvent le pirate va d'ailleurs avoir un avantage stratégique à mener son attaque dès le vendredi soir ou un 13 juillet.
Oui,
Voilà, ou pendant les vacances. Pourquoi ? Bah parce que ça créera un dysfonctionnement supplémentaire, une faiblesse supplémentaire de la part de sa cible.
Est-ce qu'il y a des entraînements ? Ils s'entraînent
bien sûr,
les uns
on s'entraîne,
les autres.
Bien sûr, on s'entraîne avec ce qu'on appelle des pen tests. Alors ça veut dire, c'est un anglicisme, penetration test, des tests de pénétration. Ce sont des gens qui... alors là, on va pas parler de les hackers, le terme de hacker, et c'est un moment de sémantique qu'il faut préciser, c'est le terme de hacker est souvent assimilé dans les médias, le discours journalistique comme étant synonyme de pirate. Ce n'est certainement pas le cas. En fait, un hacker ou une hackeuse, c'est quelqu'un qui déjà s'interroge toujours sur le fonctionnement d'une technologie. Ensuite, va essayer de la comprendre et pour la personnaliser, éventuellement retirer certaines fonctionnalités, en ajouter d'autres. Et donc, ce sont des gens qui vont mener des actions. Alors là, on parle de hacking éthique, parce que l'éthique est une dimension, alors là, très humaine, peu technologique, mais indispensable dans cet état d'esprit, de gens qui vont faire ces tests de pénétration en disant, voilà, si je reprends l'analogie de la maison, vous estimez que vous avez mis en place des règles de sécurité, c'est-à-dire des barreaux aux fenêtres, une alarme que vous pouvez enclencher, éventuellement un chien dans le jardin. Très bien, bah vous mettez tout cela en place. Le travail, ce sera à ce moment-là de... On va convenir que vous allez cacher un objet, une liste, une recette de cuisine, par exemple, qui vous tient à cœur, ce qui serait assimilé à un secret d'entreprise dans le monde commercial. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Et dans 15 jours, moi, hacker éthique, je vais voir monsieur le directeur général pour lui dire, voilà, bah, j'ai trouvé ce document, j'y ai eu accès. Est-ce que vous m'avez vu rentrer chez vous ? Et donc, on va faire une analyse a posteriori de l'attaque, de l'intrusion. Est-ce que vous avez eu des éléments de détection ? Oui, non. Et donc, ça va permettre, ces essais vont permettre de consolider la sécurité puisque on aura détecté un moyen d'accéder à l'information stratégique.
Mais le coût financier pour une PME, justement, en matière de cybersécurité, il doit être considérable. Est-ce que c'est possible pour une petite structure de s'équiper de manière fiable?
En fait, elle doit proportionner son niveau d'investissement en cybersécurité à la nature de sa dépendance numérique. C'est-à-dire qu'il serait vain de dire « je vais tout mettre au plus haut niveau, je ne vais avoir que des communications chiffrées, c'est-à-dire difficilement accessibles, je ne vais utiliser que des serveurs maîtriser chez moi, enfin d'essayer de ne pas utiliser toutes les fonctionnalités des technologies au nom d'une exigence de sécurité. L'idée, c'est à chaque fois de se dire, est-ce que j'ai un niveau qui correspond à une juste proportion de la valeur de ce que j'ai à proposer, à protéger. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un exercice tout à fait salutaire en termes de création de valeur, parce que il va y avoir un peu, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la vraie réflexion, sur la contribution de chacun, qui a accès à quoi, quels sont les équipements, les données qu'il est utile de pouvoir gérer en fonction des postes de chacun. C'est une vraie réflexion sur quelle est la place de chaque collaborateur et sa contribution. Et bien là, la même chose dans l'entreprise, de se dire qu'est-ce qui a de la valeur chez moi ? Qu'est-ce qui est un élément stratégique ? Qu'est-ce qui fait que... prenons l'exemple, avant, quand vous... hélas, votre maison prenait feu, on vous disait prenez les quelque chose qui vous tiennent à cœur. Des gens pouvaient prendre des photos de famille, de mariage, parce que c'était des éléments irremplaçables. Là, aujourd'hui... avec ces données qui sont souvent sur des serveurs, on parle de cloud, l'information nuagique. Bon, bah, effectivement, si vous avez conservé par-devers vous vos mots de passe et codes d'accès, en fait, vous pourrez les restituer sur n'importe quel ordinateur partout dans le monde. On voit que ce qui avait une valeur, pareil pour une discothèque ou une vidéothèque, qui avait une valeur intrinsèque dès lors qu'elles étaient sur des supports physiques, aujourd'hui, on est dans un monde numérisé où on peut dupliquer, avoir accès par d'autres moyens parce que l'information est redondée, c'est-à-dire qu'elle est disponible à d'autres endroits. Donc, il faut avoir cette vraie réflexion, et c'est là où on voit qu'il ne faut pas le faire uniquement au nom de l'application de règles de sécurité, parce que ce serait de la conformité et ce n'est pas un élément très porteur, ce n'est pas très dynamique, parce que les gens, juste pour être en conformité avec la législation, ce n'est pas de nature à mobiliser la créativité. Par contre, si on se dit, tiens, si j'ai dans un monde de concurrence où on voit des nouveaux acteurs arriver, vous êtes un hôtelier et puis vous voyez que maintenant vous êtes concurrencé par quelqu'un qui fait des applications comme Airbnb, pour ne pas le citer, ou un autre, vous voyez que vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent, et donc ça va vous obligé, quand vous êtes une entreprise, à vous dire qu'est-ce qui fait ma singularité, qu'est-ce qui fait que ma raison d'être, qu'est-ce qui fait que mes clients ont intérêt et vont choisir mes services, mes produits. Et donc, ça devient un élément où vous allez mettre le doigt sur ce qui constitue l'actif essentiel de votre activité. Et c'est celui-là, ce sont ceux-là qu'il va falloir protéger au plus haut niveau. Et donc, vous voyez que ce sera le fruit d'une vraie réflexion stratégique et pas uniquement l'empilement de mesures de protection.
Alors certains, en revanche, nécessitent une surveillance maximale. Ce sont des cibles particulièrement sensibles. Les opérateurs d'importance vitale de la nation, qui sont-ils ?
Alors effectivement, pour inciter à cet investissement en sécurité, puisque c'est pas toujours une démarche volontaire, spontanée, la loi, alors en France, c'est une loi qu'on appelle la loi de programmation militaire. Elle a été discutée à partir de 2013, elle a été adoptée en 2016. L'idée, c'est que la France a désigné un peu moins de 300 OIV, opérateurs d'importance vitale. Ce sont des entreprises dans 12 secteurs d'activité, donc il y a l'énergie, les télécoms, la banque, la santé, il y en a ainsi qui couvrent tous les champs d'activité. Ce sont des entreprises ou parties d'entreprises, parce que c'est pas forcément toute la société, mais ça peut être une verticale en son sein, qui, alors c'est une définition, c'est les juristes adorent les définitions à contrario, c'est-à-dire que je vous définis par ce que vous n'êtes pas. C'est que là, ce sont des entreprises dont la défaillance mettrait en péril la collectivité nationale. Donc là, vous voyez, par exemple, alors prenons l'exemple d'une compagnie d'énergie, d'électricité. Alors, c'est très bien quand elle fonctionne, mais c'est surtout, vous imaginez les dégâts causés quand il n'y a plus d'électricité. Donc, on lui dit, à ce titre-là, tu es OIV. Et donc, tu as des obligations d'investissement, de robustesse de tes équipements, de choix de tes personnels, de recours à des prestataires qualifiés. Alors, il s'avère que la France a eu une certaine initiative dans ce domaine, puisque ces OIV sont une création française et que ça a inspiré le législateur européen puisque une directive, alors le vocable est moins dramatique puisque là on parle d'OSE, d'opérateur de services essentiels, mais qui a également étendu à partir de 2018 en toute l'Europe cette notion d'entreprise ou d'activité qui constitue l'espèce de colonne vertébrale d'un pays et qui donc doivent nécessiter des investissements spécifiques et particulièrement exigeants en cybersécurité. En France, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, c'est une agence qui dépend du Premier ministre, qui est en charge de la réglementation et surtout de son application.
Parce que ça signifie qu'en cas d'attaque sur ces sites-là, sur ces sociétés-là, c'est directement les cybercombattants du ministère des Armées qui interviendraient là.
Alors non, alors pas dans un premier temps, puisque là ce sont des activités éminemment civiles. Et puis c'est surtout, il faut garder à l'esprit que l'administration ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que à un moment, il va falloir, si des entreprises de cette dimension étaient malmenées, étaient mises en difficulté, il faut faire émerger. Et c'est le cas des prestataires qualifiés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité. Sécurité des systèmes d'information, elle a qualifié des séries de prestataires à un niveau alors à la fois de technicité, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient l'expertise technique, mais également qu'ils aient la confiance, c'est-à-dire qu'ils soient considérés comme des prestataires sérieux. Et donc effectivement, là, ce sont des prestataires privés qui viendraient, qualifiés par l'ANSSI, qui viendraient mener ces opérations, alors de remédiation, c'est-à-dire qu'on va stopper les attaques et retour à une situation normale.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi.
Stromae, Carmen. Et nous retrouvons notre invité Nicolas Arpagian pour parler de cybersécurité. On peut donc parler de souveraineté technologique de l'État, des États ?
Alors, en tout cas, les États le souhaiteraient. C'est vrai que la question de la souveraineté, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de maîtriser les éléments technologiques assurant la continuité des activités et l'autonomie de la prise de décision. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, les États s'interrogent et sont en train d'ausculter en quelque sorte leurs infrastructures, leurs équipements, pour savoir si, oui ou non, ils peuvent exercer cette souveraineté au sein de leur organisation.
Il y a beaucoup d'attaques par an sur le sol français, sur les institutions, alors, ou sur des secteurs privés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autant si, par exemple, vous voulez rechercher les statistiques sur la criminalité, le vol de voitures ou les cambriolages, vous allez aller, le ministère de l'Intérieur a établi des statistiques qui sont publiées une fois par an. Vous avez un observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Alors, il a quelques items concernant la cybercriminalité et ils sont absolument faméliques et absolument pas exhaustifs. Pourquoi ? Parce que on a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est déjà les personnes, alors entreprises, administrations, quasi gens collectivités, qui ignorent leur statut de victime. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, on ne peut pas le quantifier, puisqu'elles ne savent pas que quelqu'un est rentré chez eux, a volé éventuellement quelque chose, que ce soit une information ou pourquoi pas de l'argent. Ensuite, il y a ceux qui auront fait l'objet d'une cyberattaque, mais qui ne tiennent pas à ce que ça se sache. Par pudeur, par plein de sentiments,
enfin l'image,
voilà, oui. L'image ne veut pas. Alors c'est pour ça que la réglementation les contraint. Je vous l'ai mentionné avec les données personnelles. Là, vous avez l'obligation de déclarer ça à la Commission nationale informatique et liberté et au titulaire des données. Donc si vous avez une base de données qui est pillée, chaque titulaire, chaque personne qui est dans cette base de données doit être informée. Pareil, si vous êtes opérateur d'importance vitale, vous avez l'obligation d'informer l'ANSSI, l'agence gouvernementale française, et c'est le cas dans les pays européens. Et donc, on voit que cette obligation de déclaration, alors n'est pas forcément une obligation de publicité, mais en tout cas, vous êtes obligé de formaliser ce piratage ou ce vol. Donc, on n'a pas de statistiques, et d'ailleurs, c'est regrettable. Et l'État travaille, notamment avec une plateforme qui s'appelle Acima, et que je vous encourage, vos auditeurs, ça s'appelle, pour rejoindre ce site internet, c'est cybermalveillance.gouv.fr, qui est une plateforme, une émanation gouvernementale, qui permet aux gens, quand ils ont subi une attaque, de savoir quoi faire. Éventuellement s'il y a besoin d'une réparation à conduire, une formalité à faire. Et ce site a vocation à accueillir justement les problèmes, j'ose pas dire les plaintes au sens juridique, mais les difficultés rencontrées ou les piratages subis par le grand public, les PME essentiellement. Et ça va permettre d'établir un observatoire neutre sans aller jusqu'au dépôt de plainte, mais ça va permettre de clarifier la situation et de quantifier plus précisément que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment pas satisfaisant en termes de mesure de la menace.
Et une attaque, une fois maîtrisée, identifier l'agresseur, bon, on sait que c'est parfois difficile. De quel ordre peut être ma riposte ? Moi, elle peut être du même ordre, c'est-à-dire numérique, judiciaire, ou peut-être même de manière plus conventionnelle, militaire, si jamais c'est...
Alors, effectivement, tout dépend qui est l'objet de l'attaque. Alors, il s'avère que la France a officialisé dans sa doctrine d'emploi de la force le fait qu'elle s'autorisait à répondre à des cyberattaques. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant présent dans les arsenaux de doctrine à peu près de tous les grands pays qui ont prévu effectivement la possibilité, voire le cas échéant, de répondre par des attaques conventionnelles, c'est-à-dire vraiment avec des armements classiques. Donc ça fait partie maintenant du droit des conflits armés qui commence à, notamment dans le cas de l'OTAN, mais également dans le droit international qui commence à se construire dans ce domaine de la qu'on appelle la cyberguerre potentiellement. Par contre, effectivement, les entreprises, les particuliers n'ont pas vocation à riposter. Alors il s'avère que les Américains ont une doctrine qui s'appelle le hack back, c'est-à-dire vous m'attaquez, je vais à défendre en attaquant les attaquants. Bien évidemment, c'est en tout cas ni souhaité, ni recommandé, ni prôné par des pays comme la France et l'Union européenne. Donc là, on est dans se protéger, c'est-à-dire réduire son exposition au risque. La seule chose qui peut intervenir, par exemple, en termes de riposte, c'est lorsque vous avez une attaque, alors qui cible surtout les entreprises, vous savez, lorsque elles reçoivent simultanément des connexions d'un grand nombre d'ordinateurs, on appelle ça une attaque en déni de service, ça a vocation à faire tomber. Vous savez, avant, vous êtes tombé le standard de Cognac G quand il y avait trop d'appels. Là, il s'agit que par un grand nombre de communications simultanées, de connexions simultanées, on rend un site internet inopérant. Il ne peut plus fonctionner. Alors, vous allez me dire, bon, si c'est un site purement vitrine, institutionnelle, ça a peu ou pas d'importance. Alors, ça peut être le cas pourtant si c'est un site gouvernemental, parce que c'est une atteinte à l'exercice de cette souveraineté. Et par contre, si c'est un site marchand, aujourd'hui, tous les gestionnaires de sites de commerce, que ce soit dans les loisirs, que ce soit dans les voyages ou autres, sont tout à fait capables de vous dire ce que leur coûte la minute de non-disponibilité de leur site. Et donc, ça peut faire l'objet d'une extorsion ou d'un chantage à la non-disponibilité. Alors là, la possibilité, c'est de demander à des services, alors notamment fournis par des opérateurs télécoms, de filtrer avec une règle technique, un certain nombre des connexions simultanées pour analyser celles qui sont manifestement illégitimes et de manière à soulager le site internet et qu'il retrouve un flux normal lui permettant. Donc ça fait partie des rares mesures de riposte où la victime a quelques moyens techniques pour se défendre, mais vous voyez que c'est plus de soulager l'attaque que de se venger à l'encontre de son assaillant.
C'est pas l'envie qui lui manquerait. Vous pensez que la France a les outils juridiques suffisants pour faire face aux enjeux de la cybersécurité et est-ce que la réponse judiciaire, elle est suffisamment dissuasive?
Alors, la France a déjà en plus une initiative à une relative antériorité. C'est un pays qui est plutôt en avance dans la constitution de son cadre juridique. Deuxièmement, en plus, la France a fait un choix stratégique d'investir justement avec les deux grands pays leaders dans ce domaine, c'est la France et l'Allemagne, très nettement. La Grande-Bretagne, c'est un peu particulier parce que il s'avère qu'elle a réuni au sein de la même structure, ce qu'on appelle le GCHQ, donc un peu les services de renseignement britanniques et l'Agence de sécurité nationale des systèmes d'information. Donc on a du mal un peu à faire la part des choses entre les activités de l'Agence de renseignement qui est par nature discrète, alors qu'en France, l'ANSSI est un organisme purement défensif et donc à l'instar de ce que les Allemands ont fait avec le BSI, ce sont les structures qui grandissent, investissent dans la formation, recrutent. C'est un grand recruteur et d'ailleurs, ce sont des instances qui, en termes budgétaires, ont plutôt vu leur budget soit préservé ou revu à la hausse, ce qui, dans le contexte budgétaire public, n'est pas forcément la tendance. Donc la France a l'avantage d'avoir une expertise technique et également un cadre juridique ancien et robuste.
Alors, le numérique est partout. Aujourd'hui, quand on est attaqué, on peut plus se considérer comme simple victime. Vous dites qu'il y a une notion de responsabilité qui s'impose.
Alors, c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus miser uniquement sur la naïveté. Quand vous avez à la une des journaux des entreprises, des personnalités qui font l'objet de piratage, on peut plus être dans l'ignorance. Deuxièmement, on voit également un vrai changement de mise en cause de la responsabilité. On le voit d'ailleurs avec ce règlement général sur la protection des données, qui est donc un règlement européen adopté, rentré en vigueur dans tous les pays de l'Union en mai 2018. Ce règlement dit justement si une entreprise, une administration, enfin toute entité qui est détentrice de données personnelles, qui s'est fait voler ou qui a perdu des données personnelles, peut encourir une sanction pouvant aller jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires mondial globalisé. Alors, ce chiffre peut être très important. Pour l'instant, pour l'année 2019, l'amende la plus importante a été attribuée à British Airways par l'équivalent britannique, l'ICO, l'équivalent britannique de la CNIL, pour une perte de données personnelles de ses passagers. C'est un peu plus de 200 millions d'euros d'amende. Donc, vous voyez, 200 millions d'euros d'amende, ça vient en plus des frais d'avocat, ça vient en plus des frais des pertes techniques, informatiques et surtout de ce qu'il va falloir réinvestir pour revenir à un niveau de sécurité satisfaisant. Donc là, on est dans des circonstances où la victime, qui jusqu'à présent méritait plutôt de la compassion, se trouve en plus obligée de rendre des comptes et, le cas échéant, de payer des amendes. Donc là, on voit un vrai changement de responsabilité. Et de la même manière, on a eu une jurisprudence de la Cour de cassation en France qui a mis en cause un client d'une banque qui s'était fait prélever de l'argent de manière indue après avoir cliqué sur un lien qui émanait prétendument de la banque en question. Et là, pour la première fois, ça veut dire que la banque a considéré que le client avait été négligent. Alors que jusqu'à présent, la protection des consommateurs voulait que la banque, dès lors qu'on plaidait la bonne foi, la banque remboursait. On voit que la victime, on commence à lui demander des comptes, elle n'est pas que victime, elle a maintenant une nécessité de s'éduquer, de hausser son niveau de vigilance, de manière à être partie prenante de cette sécurité, de manière à être le premier maillon de cette chaîne de sécurité.
En deux mots, est-ce qu'il y a une coopération internationale ou ça se passe bien?
Alors, il y a de la coopération, il y a peu d'intégration. Vous voyez, on parle souvent du FBI. Le FBI a l'avantage d'être une police qui applique le même droit et une compétence sur l'ensemble du territoire américain. C'est pas le cas en Europe. En Europe, ce sont des polices nationales qui coopèrent, ce sont des systèmes juridiques juxtaposés. Donc, la famille européenne, elle est dans la coopération. C'est bien, alors c'est bien tant que ça fonctionne, mais c'est vrai que le jour où ça se grippe, c'est plus compliqué que quand on a un système juridique qui s'applique avec une capacité d'intervention, avec notamment le FBI. Donc, les victimes déplorent toujours d'être dépendantes de l'efficacité de cette coopération internationale. Surtout que le pirate, lui, a la possibilité de franchir les frontières, de choisir des prestataires, des sous-traitants, voire éventuellement de mercenaires numériques qui peuvent être dans différents pays, alors que l'enquêteur, quand il respecte le code de procédure pénale, va être obligé de valider chaque option, de tester chaque possibilité. Et donc, vous voyez que, il ne joue pas sur le même rythme.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. merci beaucoup, Nicolas Arpajan, d'être venu nous voir. Votre livre, Cybersécurité, très pédagogique, concis, aux éditions Presse Universitaire de France, dans la collection Que sais-je. Vous pouvez bien sûr réécouter, télécharger l'émission sur notre site fréquenceprotestante.com. Merci à Arnaud pour la réalisation et excellente journée à tous.